Alors, j'en viens maintenant à la conférence de ce soir, la présentation de Jean-Denis Vigne, qui est à mes côtés et qui va vous donner l'intervention de ce soir. Il est né en 1954. Il est docteur et directeur de recherche au CNRS. Il a d'abord enseigné les sciences naturelles comme professeur agrégé au collège et au lycée. Et à partir de 1986, il est devenu chercheur au CNRS. Il est titulaire d'une thèse en paléontologie sur l'histoire holocène des mammifères de Corse. Ses travaux ont porté sur l'histoire de l'anthropisation des îles et îlots méditerranéens, sur les hominidés, puis ils se sont étendus au continent à travers des questions telles que le transfert d'animaux pour la chasse ou l'origine du commensalisme des rats et des souris. Ils se sont ensuite orientés vers l'histoire de la domestication, et c'est là qu'on rejoint le sujet de ce soir, et des sociétés néolithiques méditerranéennes, notamment à Chypre. Ils ont contribué à enrichir la méthode archéozoologique par des techniques statistiques, morphométriques et moléculaires. Jean-Denis Vigne a publié 6 ouvrages, 250 articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il est fondateur et rédacteur du périodique international Anthropozoologica. Il a formé de nombreux chercheurs. Actuellement, il anime l'unité archéozoologie et histoire des sociétés du Muséum d'histoire naturelle, qui est associé au CNRS. Et depuis peu, il est vice-président du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes. Et ensuite, de quoi, selon nos usages, il répondra aux questions que vous voudrez bien lui poser. Merci.
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous une excellente soirée. En tout cas, je vais essayer de m'y employer. Je voulais aussi, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, remercier l'Université de tous les savoirs de m'avoir invité ce soir à vous parler. Et bien sûr, je vais effectivement vous parler de domestication animale, mais aussi, vous verrez, d'un tas de choses qui viennent d'être évoquées très rapidement et qui sont plus ou moins reliées à cette domestication. Engagée il y a plus de 10 000 ans au Proche-Orient, la domestication des animaux compte parmi les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Elle s'est accompagnée de profonds bouleversements démographiques et socio-économiques à l'origine des sociétés paysannes dont nous connaissons encore aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, des modèles finalement assez peu éloignés de celles du néolithique. Quel fut l'impact écologique de ces domestications? Peut-on distinguer des effets immédiats à court terme et des conséquences différées à l'échelle de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Conséquences qui, peut-être, ne se révéleraient qu'aujourd'hui, 10 000 ans après. Existe-t-il un lien entre cette mutation économique des sociétés humaines et le grand bouleversement écologique que connaît notre planète depuis quelques siècles, voire quelques décennies? Les pertes de biodiversité dont on s'alarme aujourd'hui n'ont-elles pas finalement toujours existé dès lors que les sociétés agro-pastorales brûlaient les forêts et s'appropriaient les ressources? Et comment ce retour sur notre passé peut-il aider à mieux gérer l'avenir de notre planète? Ce que j'aimerais faire aujourd'hui devant vous en tentant de répondre à ces questions, c'est tenter de relier les aspects socio-économiques, mentaux et cognitifs de la néolithisation avec l'érosion de la biodiversité dont s'inquiètent nos sociétés à juste titre. Je le ferai à partir d'exemples pris parmi les animaux vertébrés du bassin méditerranéen et de l'Europe occidentale, car on n'expose bien que ce qu'on connaît bien. Je commencerai par un rapide aperçu de l'état des connaissances et des questions concernant les débuts de la domestication. Puis je m'intéresserai à un petit territoire méditerranéen insulaire, la Corse, pour illustrer les différentes conséquences écologiques de la néolithisation. Enfin, je terminerai sur quelques exemples continentaux avant de tenter de répondre aux questions que je viens d'évoquer. Les débuts de la domestication, c'est la domestication du chien. En effet, le plus vieil animal domestique est, de loin, le chien. Il a été le seul animal domestique des chasseurs-cueilleurs, comme ces aborigènes australiens avec leurs dingos, et ce, depuis la fin des dernières phases glaciaires du Quaternaire, entre 18 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Sa domestication a probablement eu lieu indépendamment dans de nombreuses régions de l'Ancien Monde, en Europe occidentale, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, et peut-être aussi en Asie centrale et en Amérique du Nord. En ce qui concerne les animaux d'intérêt économique, les choses sont bien plus tardives, puisqu'elles débutent aux environs de 8500 avant Jésus-Christ, et se prolonge d'ailleurs jusqu'à nos jours avec la domestication en cours de nouvelles sources alimentaires telles que le cerf ou l'autruche. Ici encore, la domestication a été réalisée dans plusieurs régions du monde. En Amérique, avec les lamas, alpacas, cochons d'Inde et canards de Barbarie au sud, avec le dindon au nord. En Extrême-Orient, avec le cochon, la chèvre, le buffle et le coq. Au Moyen-Orient, avec la chèvre, le mouton, le zébu. Au Proche-Orient, avec le porc, la chèvre, le mouton, le bœuf, le dromadaire et peut-être plus tard l'âne. En Afrique, avec l'âne et peut-être le bœuf. En Asie centrale, avec le cheval et le chameau. Et même en Europe occidentale, avec une seule espèce toutefois, le lapin, dont nous reparlerons un peu plus tard. C'est clairement au Proche-Orient qu'ont eu lieu les plus anciennes et les plus nombreuses domestications, entre 8500 et 7000 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi je m'y étendrai un peu plus. C'est en effet le domaine le mieux connu. Au Proche-Orient, la néolithisation a débuté à la fin du tardiglaciaire, aux alentours de 13000 avant Jésus-Christ, et on peut considérer qu'elle a été pleinement réalisée à partir de 6000 avant Jésus-Christ. Cette transformation de société de chasseurs-cueilleurs en groupes villageois, d'agriculteurs, éleveurs, a donc duré au moins 7000 ans, ce qui incite à relativiser la notion de révolution néolithique avancée par Gordon Child au siècle dernier. Cette longue mutation a débuté par une sédentarisation de groupes de collecteurs, chasseurs de gazelles ou de chèvres sauvages, dans de petits villages de maisons rondes aux murs en terre crue et en pierre. C'est entre 9500 et 8500 avant Jésus-Christ que sont apparues les premières traces d'agriculture. Puis, après 7000, apparurent les premières poteries proche-orientales, l'évolution se poursuivant bien sûr par l'urbanisation, l'apparition de la métallurgie et les grandes civilisations de l'Antiquité classique. L'apparition de l'élevage s'est déroulée, elle aussi, très progressivement, entre 8500 et 7000 avant Jésus-Christ, avant le début du néolithique avec céramique. Durant une époque qu'on appelle le néolithique pré-céramique B, ou PPNB, qui vient de l'anglais Pre-Pottery Neolithic B. Ce PPNB est un très puissant groupe de cultures affiliées, dont on subdivise l'évolution en trois phases, ancienne, moyenne, récente, comme souvent on le fait en préhistoire. Un mot sur les méthodes et les sources d'information. Ce sont les collections d'ossements d'animaux trouvées dans les fouilles archéologiques qui fournissent l'essentiel de l'information concernant ces premières domestications. Depuis les années 60, du siècle dernier, on pourrait dire, leur étude s'est considérablement développée sous la forme d'une discipline nommée archéozoologie. Voilà l'explication que vous attendiez peut-être à la lecture du texte d'introduction. Cette archéozoologie s'appuie sur la grande richesse d'informations qu'on peut extraire de ces restes archéologiques. On peut en déterminer l'espèce en analysant la morphologie locale. On peut extraire des isotopes stables. Et ces éléments d'information, entre autres, permettent de préciser les conditions de vie de l'animal. On peut également déterminer l'âge et le sexe d'abattage qui renseignent sur les modalités d'acquisition de l'animal par l'homme. Les traces de découpe renseignent sur les modalités de consommation par l'homme. L'ADN fossile, qu'on parvient parfois, trop rarement, à extraire des os fossiles, apporte des informations sur les éventuels transferts d'animaux par l'homme. Le radiocarbone, enfin, permet une datation avec une erreur de moins d'un ou deux siècles pour les périodes qui nous intéressent. Tous ces éléments confrontés permettent, espèce par espèce, de déterminer le statut domestique ou sauvage des animaux qui ont constitué la collection d'ossements archéologiques. Venons-en maintenant au scénario des premières domestications telles qu'on le connaît à ce jour. Depuis la mer Morte jusqu'en Cappadoce, en passant par Chypre, et depuis la haute vallée de l'Euphrate jusque dans les monts du Zagros iranien, ce sont en tout une trentaine de sites du PPNB qui, à ce jour, décrivent les deux premiers siècles de la naissance de la domestication animale. C'est dans le Haut-Euphrate, sur le versant méridional du Taurus oriental, aujourd'hui en Turquie, je parlerai aussi d'Anatolie pour l'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, donc sur cette région, qu'on connaît les plus anciens événements de domestication, aux alentours de 8200, 8500 à 8300 avant Jésus-Christ. Il s'agit de la domestication du porc, de la chèvre et du mouton. Très rapidement, avant 8200 à 8000, ces trois taxons domestiques sont introduits par l'homme, par déplacement, dans d'autres zones, d'une part vers le sud, dans la moyenne vallée de l'Euphrate, d'autre part vers l'est, jusqu'en Cappadoce, et même jusqu'à Chypre, en traversant un bras de mer de 80 km de large. Chypre pose d'ailleurs des questions non résolues, puisqu'en même temps que les trois ongulés domestiques, y ont été introduits des bovins et des daims, dont on peut donc supposer qu'ils étaient déjà domestiqués ou en cours de domestication sur le continent proche. Mais où ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Toujours est-il qu'aux environs de 8000 à 7800 avant Jésus-Christ, le bœuf domestique est cette fois bien attesté en Anatolie orientale, un peu tard pour Chypre. À la même époque, apparaissent dans le Zagros iranien, donc dans les montagnes, des chèvres apparemment domestiques qui pourraient bien l'avoir été indépendamment de toute importation venue du foyer anatolien, une domestication indépendante. En revanche, il est probable que les moutons qui apparaissent dans cette même région quelques siècles plus tard ont été importés depuis la vallée de l'Euphrate. C'est également aux alentours de 8000 avant Jésus-Christ qu'apparaissent les chèvres domestiques de Palestine, chèvres dont on se demande ici encore si elles n'ont pas été domestiquées localement. En revanche, il est très probable que les porcs, moutons et vaches domestiques qui apparaissent au Levant Sud à la même époque ont été introduits sous forme d'animaux d'élevage à partir des zones plus septentrionales. Ainsi, aux alentours de 7600 avant Jésus-Christ, donc à la fin du PPNB moyen, les quatre taxons d'ongulés domestiques d'embouche sont déjà élevés dans de nombreuses régions du Proche-Orient. Toutefois, à cette époque, c'est encore la chasse qui apporte l'essentiel de l'alimentation carnée villageoise au Proche-Orient. Ce n'est qu'entre 7500 et 7000, selon les endroits, au fil de ce qu'on appelle le PPNB récent, que l'élevage devient la principale source de protéines animales, sous forme de viande mais aussi sous forme de lait et de ses dérivés. Et ceci, bien sûr, dans certains villages. Il ne s'agit pas là des groupes de nomades, bien entendu. Il s'agit des villages bien implantés. À cette époque, on peut considérer que le processus de première domestication animale est achevé. Alors, une des questions qui se pose souvent, une fois qu'on a ce scénario en tête, c'est pourquoi la domestication ? Pourquoi tout d'un coup, dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est-il mis à domestiquer ? Et pourquoi l'a-t-il fait, comme je l'ai déjà dit, dans de nombreuses régions du monde et dans une tranche de temps relativement homogène qui est, disons, le début de l'Holocène. La relative contemporanéité des phénomènes dans ces différentes régions du monde, au moins à l'échelle de l'histoire de l'humanité, suggère soit que la domestication résulte d'une modification globale des conditions climatiques, soit qu'elle signe l'accession de l'humanité à certains niveaux techniques, démographiques, économiques, cognitifs, sociaux, bref, quelque chose qui renverrait à l'évolution, à une évolution du type évolution de l'hominisation. Examinons rapidement d'abord trois de ces hypothèses. Premièrement, celle des contraintes climatiques globales. Deuxièmement, celle de l'amélioration économique sous une pression démographique, par exemple. Troisièmement, celle de l'innovation technique. L'évolution des températures globales au tardiglaciaire et à l'Holocène est bien connue grâce aux données isotopiques enregistrées dans les carottes glaciaires des pôles. Elle montre trois grandes phases de perturbation durant les 16 000 dernières années, qui sont signalées en vert ici, mais aucune d'entre elles ne correspond strictement à l'une des grandes innovations de la néolithisation, c'est-à-dire sédentarisation, agriculture et élevage. Même s'il est vraisemblable que la naissance de l'agriculture et de l'élevage ont bénéficié de conditions climatiques et environnementales favorables, vous le voyez sur ce diagramme, on peut donc éliminer l'hypothèse que ces modifications climatiques aient déclenché ces phénomènes, ou du moins qu'ils soient les seuls stimuli à ces phénomènes. En ce qui concerne l'hypothèse d'une réponse économique à une forte croissance démographique, par exemple, nous avons vu, il y a quelques instants, que l'élevage n'a vraiment constitué une source de nourriture que plus d'un millénaire après son apparition. Il est donc clair que la réalisation économique, le profit économique, n'a pas précédé la mise en place de cet élevage. Nous pouvons donc également éliminer cette hypothèse comme hypothèse principale. En ce qui concerne l'innovation technique, souvenons-nous que les chasseurs paléolithiques avaient, en de nombreuses régions du monde, domestiqué le chien plus de 5000 ans avant que les premiers agriculteurs n'aient domestiqué les chèvres et les moutons, dont les morsures sont bien moins douloureuses que celles des loups, soit dit au passage. D'ailleurs, de nos jours, les familles de certaines sociétés de chasseurs d'Amazonie pratiquent encore l'apprivoisement, de jeunes porcs ou de jeunes singes qu'ils élèvent au sein avec les bébés. Il n'y a pas de volonté d'exploiter l'animal. Il s'agit seulement d'une contrepartie symbolique des prélèvements de chasse faits à la nature. Cette pratique d'apprivoisement est donc bien différente de la domestication néolithique dont on parle, mais elle montre que les chasseurs-cueilleurs maîtrisent la technique d'apprivoisement des animaux sans toutefois l'utiliser à des fins de domestication. Même s'il est clair que l'agriculture et l'élevage ont nécessité un apprentissage progressif visant à améliorer les techniques agropastorales, il est donc clair que la domestication néolithique ne résulte pas d'une brutale invention technologique. L'une des hypothèses les plus en vogue durant ces dernières années a été élaborée par le regretté Jacques Cauvin. Elle s'appuie sur le constat d'une révolution des symboles entre les sociétés des chasseurs-cueilleurs et celles des agropasteurs et propose donc que la domestication soit issue d'une évolution cognitive des sociétés. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques et actuelles, la symbolique et les religions chamaniques renvoient tous à une représentation du monde horizontal dans laquelle l'homme figure au même titre que les montagnes, les animaux, les astres, les plantes et les éléments, dans un vaste ensemble qu'est la nature, avec laquelle il convient de communier. Chez les agropasteurs, les religions ne sont plus chamaniques, mais fondées sur la présence d'une divinité. De ce fait, la représentation mentale du monde est hiérarchisée. L'homme y occupe une position inférieure à celle de la divinité, à laquelle sont associés les phénomènes surnaturels, mais il domine cette fois les éléments animaux, végétaux et minéraux. Or, Jacques Cauvin a remarqué que les figurines et représentations symboliques du Proche-Orient subissaient une profonde modification juste avant que n'apparaissent l'agriculture et l'élevage. On voit en effet apparaître des figurines de divinités et surtout des représentations humaines implorant vers le haut, des orans tournés vers le ciel. Cette modification fondamentale et durable de l'image du monde avait donc précédé l'agriculture et l'élevage de très peu. La verticalisation de l'image mentale du monde aurait donc amené les hommes à concevoir l'idée de dominer les plantes et les animaux, au point de se les approprier pour disposer de sources de nourriture mieux contrôlables. Nous allons voir maintenant que cette modification fondamentale du comportement humain n'a pas entraîné que l'apparition de l'élevage, mais aussi des bouleversements écologiques très importants. Nous le verrons à l'échelle des espaces insulaires méditerranéens, étudiés à titre d'exemple en particulier la Corse, mais également dans un second temps, à l'échelle du continent ouest européen. Venons-en donc aux îles méditerranéennes. La plupart des îles méditerranéennes est restée séparée du continent et vierge de tout peuplement humain durant une large part du Pléistocène. Ces îles n'ont été peuplées par l'homme qu'à partir du Néolithique. Elles constituent donc des espaces privilégiés pour étudier les conséquences écologiques de l'apparition de l'élevage et de l'agriculture néolithique. Dès la fin de l'ère tertiaire, toutefois, ou au début du quaternaire, ces îles avaient été peuplées de quelques espèces de mammifères qui s'y étaient trouvées piégées et avaient évolué en milieu clos durant des centaines de millénaires sans échange génétique avec leurs congénères continentales. Ces espèces animales avaient progressivement évolué vers des formes naines, pour les plus grandes d'entre elles, ou vers des formes géantes, ou du moins de grande taille, pour les plus petites. Formes qui n'avaient aucun autre équivalent sur le continent, forme qu'on qualifie de forme endémique. Il s'agit de cervidés, il s'agit également d'éléphants nains, d'hippopotames nains, mais aussi de petits lagomorphes qui ressemblent un peu à des lapins, on appelle des lapins rats, en Corse et en Sardaigne, de mulots, de souris, de lérots ou de musaraignes de grande taille. On trouve aussi quelques rares carnivores. Et une très curieuse chèvre sur les îles Baléares qui a évolué en isolement complet pendant près de 5 millions d'années. Toutes ces espèces, qu'on qualifie donc d'endémiques, ont considérablement enrichi la biodiversité à l'échelle du bassin méditerranéen. Ce phénomène d'évolution insulaire a créé une biodiversité. Voyons maintenant ce qu'est devenue cette biodiversité avec la colonisation néolithique, en particulier sur l'exemple de la Corse. La Corse est en effet sans doute l'île de Méditerranée pour laquelle le phénomène qui nous intéresse ici est le mieux connu. Une quarantaine de sites et plusieurs centaines de milliers d'ossements fossiles ont bénéficié d'études archéozoologiques. Très curieusement, il n'existe aucun indice convaincant de fréquentation de la Corse par l'homme au cours de la dernière période glaciaire, en particulier au tardiglaciaire. La Corse n'a pas été peuplée avant le début de l'Holocène et elle a été peuplée en premier lieu par des cultures mésolithiques exploitant les zones côtières. Le néolithique y a débuté aux alentours de 5500-5600 avant Jésus-Christ, comme dans toute la zone italique qui environne la Corse. Parmi les 6 espèces de mammifères présentes au tardiglaciaire, aucune n'a survécu jusqu'à nos jours. Le petit canidé Cynotherium, qui est donc la première ligne en rouge, et le cervidé nain Mégaloceros, deuxième ligne, n'ont pas atteint l'Holocène, alors que les micro-mammifères, le fameux lapin rat ou Prolagus, le mulot, le campagnol, tous deux de grande taille, et la musaraigne endémique, ont survécu en compagnie de l'homme jusqu'à l'Antiquité classique, puis se sont éteints. On suppose que les premiers, donc les espèces de grande taille, se sont éteintes en raison des très violentes fluctuations climatiques du tardiglaciaire, en particulier de la fin du tardiglaciaire et du passage à l'Holocène. Et on sait que les déboisements du premier millénaire de notre ère, engagés à la fin de la période romaine et accentués au tournant de l'an 1000, ont entraîné très probablement l'extinction des petites espèces. Actuellement, la Corse compte 26 taxons de mammifères, domestiques ou sauvages, hormis bien sûr les chauves-souris. Toutes ces espèces sont apparues sur l'île à partir du début du Néolithique, à des périodes différentes. La richesse spécifique de l'île est donc passée, en l'espace de quelques millénaires, de 6 taxons, qui étaient présents à l'origine, à 26 espèces. Cela témoigne d'un flux d'immigration en moyenne de 1,5 espèces, une espèce et demie, pour 1000 ans. Alors que le taux naturel d'immigration connu pour les îles méditerranéennes grâce à la paléontologie est estimé à 0,06 pour 1000 ans, toujours. Un tel taux, est absolument un taux de 1,5 pour 1000 ans, est absolument incompatible avec un flux naturel. Et compte tenu du fait que le début de ce phénomène coïncide avec la colonisation néolithique de l'île, il faut en conclure que l'homme est à l'origine de cette immigration. L'étude des données réunies pour les mammifères sur les autres grandes îles méditerranéennes donne partout des résultats semblables. Vous voyez ces dessins apparaître, ce n'est pas à chaque fois le même. Ce sont les dessins de remplacement de faune de chacune de ces îles. On observe donc une augmentation considérable de la biodiversité des mammifères sur chaque île au cours de cette période de 5 à 10 000 ans. Cependant, à l'échelle du bassin méditerranéen, au fil de ce processus de remplacement de faune, l'homme a amené l'extinction de nombreux taxons qui n'existaient nulle part ailleurs, et il n'a introduit sur les îles finalement que des espèces qui existaient déjà sur le continent. Quand on fait le bilan global pour l'ensemble du bassin méditerranéen, il apparaît clairement que ce bilan est très négatif. C'est-à-dire que le bilan global en termes de nombre d'espèces de l'intervention de l'homme sur ces îles est une grave perte de la biodiversité à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen. Sur l'exemple de la Corse, nous avons donc vu à propos des mammifères que pour les 26 taxons existants, 100% des taxons existants au Pléistocène s'étaient éteints et 100% des taxons présents actuellement ont été introduits. Lorsqu'on considère maintenant d'autres groupes de vertébrés, les oiseaux, toujours pour la Corse, on connaît actuellement 127 espèces, vous voyez que c'est beaucoup plus diversifié que chez les mammifères, ce qui est assez normal puisque les oiseaux peuvent venir librement pour la plupart du continent sur l'île, mais ne nichent pas forcément sur l'île. Eh bien cette fois, c'est seulement 5% des espèces d'oiseaux connues au Pléistocène supérieur qui se sont éteintes durant la période d'occupation humaine. Et ce ne sont que 30% des espèces d'oiseaux actuelles qui ont immigré suite à la néolithisation, pas forcément transportées par l'homme, mais dont l'immigration a été favorisée par les modifications d'environnement liées aux activités agricoles. Pour les amphibiens et reptiles que j'ai regroupés, 19 espèces au total actuellement. Aucune des espèces présentes à la fin du Pléistocène n'a disparu depuis lors. Et seulement 12% des espèces actuelles ont été introduites par l'homme. On voit donc que l'impact de l'homme a été maximal pour les mammifères, faible pour les oiseaux et presque insignifiant pour les amphibiens et reptiles. On constate donc que les grands groupes zoologiques réagissent différemment à la colonisation par l'homme. Il est probable que les mammifères sont plus affectés parce qu'ils sont source de nourriture, mais parce que l'homme les considère comme plus proches de lui et a donc tendance à se les approprier plus facilement. Une autre question, évidemment, que vous vous posez peut-être, c'est comment l'homme, parce que là, il s'agit de néolithique, hein, il ne s'agit pas de personne maîtrisant les avions et les hydrofoils, comment l'homme a-t-il pu introduire ou favoriser du moins l'apparition de ces espèces sur l'île? Parmi les espèces introduites par l'homme, on peut distinguer quatre catégories d'animaux qui suggèrent des modalités d'introduction différentes. D'abord, moutons, chèvres, porcs, chiens, bœufs, cheval, âne et chat ont naturellement été introduits sur l'île volontairement, sans aucun doute, comme animaux d'élevage ou de compagnie, comme l'avaient été les premiers ongulés domestiques, souvenez-vous, à Chypre, 2 millénaires plus tôt. Les analyses morphologiques et génétiques ont montré que les mouflons, sangliers, chats sauvages et peut-être même ours sont apparus sur l'île à la faveur d'un tout autre phénomène. Quelques bêtes qui avaient échappé au contrôle de l'homme pour fonder des populations sauvages sont à l'origine de l'apparition de ces espèces sur l'île. On qualifie ces populations de marronnes et elles résultent donc d'une action involontaire de l'homme dès le début du néolithique. Ça n'est pas un phénomène isolé, l'exemple de la Corse est une illustration d'un phénomène bien connu partout dans le monde dès qu'une population humaine peu nombreuse installe pour la première fois des animaux d'élevage dans une région vierge. Soulignons au passage que les populations animales qui résultent de ces marronnages sont de véritables fossiles vivants. Ainsi, le mouflon de Corse, qui dérive directement des moutons introduits sur l'île au néolithique, donne une bonne idée de ce qu'était la morphologie de cette dernière, bien éloignée de nos mérinos blancs et laineux. Revenons à la liste. Renard, cerf, lièvre, lapin et peut-être aussi le hérisson et le loir ont très vraisemblablement été introduits pour peupler l'île en gibier, alors que, rappelons-le, elle en était initialement dépourvue puisque les grands mammifères endémiques s'étaient éteints. Il s'agit là d'introduction volontaire, bien entendu, très probablement, qui suppose une appropriation des animaux, au moins temporaire, non pour l'élevage, mais pour la chasse. Il est par ailleurs difficilement imaginable que les mulots, loirs, souris, musaraignes, lérots, rats et belettes aient été introduits volontairement par l'homme. On remarque que cette liste ne comporte d'ailleurs que des espèces fortement anthropophiles, c'est-à-dire qui sont attirées par l'homme et ses activités, et qui donc fréquentent granges, réserves de nourriture, etc. Cela suggère qu'elles ont profité par hasard des bateaux des hommes, cachés dans les denrées, pour immigrer clandestinement sur l'île. L'homme a donc joué, dans ce cas, le rôle de faciliter la diffusion plus que d'introduire volontairement. Évidemment, les effets écologiques de ces espèces de rongeurs très prolifiques sont considérables. Nous y reviendrons. Pour conclure sur ce point de l'insularité des exemples insulaires, essayons de passer de l'île au continent. Les observations faites sur les îles permettent de proposer pour le continent un modèle de composante de l'intervention des sociétés paysannes sur un territoire vierge. La première de ces composantes est, nous l'avons vu, l'extinction de certaines espèces autochtones, soit par une chasse excessive, soit, le plus souvent, par une destruction des milieux ou par l'introduction de compétiteurs ou de maladies, voire tous ces éléments ensemble, réunis. La seconde composante est l'introduction d'herbivores domestiques, dont la présence va peser fortement sur le couvert végétal. La troisième composante est le marronnage, qui est susceptible de modifier considérablement la composition de la faune sauvage locale. La quatrième est l'introduction volontaire de gibier pour la chasse. Elle aussi pèse fortement sur la faune locale, bien entendu. La cinquième est l'introduction facilitée de nombreuses espèces anthropophiles, commensales ou même parasites, notamment des micro-organismes pathogènes qui suivent le même chemin que les rongeurs dont on vient de retracer l'histoire pour la Corse. Voyons donc maintenant comment ces différentes composantes... En premier lieu, insistons sur le fait que toutes ces actions ont un impact écologique très fort, non seulement sur la biodiversité, mais sur les paysages et les conditions sanitaires locales. Donc voyons maintenant comment ces différentes composantes, qu'on suppose fonctionner également sur les continents, s'expriment dans des zones non insulaires. Je vais devoir faire un tout petit... Interruption technique pour avoir la deuxième bobine du film. Pardon. Voilà. L'introduction d'animaux domestiques pour l'élevage, en premier lieu, n'est pas l'apanage des îles. L'aire de répartition des ancêtres sauvages du mouton, le mouflon et de la chèvre égagre, est limité au Proche-Orient. En d'autres termes, ces deux espèces domestiques, moi je vais aller un petit peu vite, en d'autres termes, ces deux espèces domestiques que sont le mouton et la chèvre n'ont pas d'ancêtres sauvages en Europe. Même les mouflons que vous connaissez actuellement dans nos montagnes alpines ou pyrénéennes, ou bien en Europe centrale, ont été introduits très récemment dans ces régions, au XXe siècle la plupart du temps, à partir du mouflon de Corse, dont on a vu qu'il était lui-même un descendant de moutons domestiques. En d'autres termes, tous les moutons et chèvres domestiques qui peuplent l'Europe au néolithique descendent donc d'animaux qui ont été transportés par l'homme depuis le Proche-Orient à partir d'animaux domestiqués dans cette région. Voyons comment s'est déroulé ce transfert. Rappelons d'abord que l'élevage des ongulés a diffusé au 8e millénaire à partir de l'Anatolie orientale jusqu'à la pointe occidentale de l'actuelle Turquie, où il a atteint la Méditerranée aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ. Je reprends donc le fil de l'histoire où je l'ai interrompu tout à l'heure. De là, la diffusion des moutons et des chèvres a suivi deux routes plus ou moins distinctes. L'une méditerranéenne, l'autre continentale, qu'on qualifie de danubienne, celle qui est en rouge. La route méditerranéenne a largement bénéficié de la navigation pour progresser rapidement vers l'ouest, probablement par sautes successives d'un rivage à l'autre, d'une île à l'autre. En moins d'un millénaire, elle atteint la péninsule ibérique. La voie danubienne fut moins rapide d'un demi-millénaire, probablement en raison des processus de diffusion plus progressifs. On a quelques éléments concernant ces processus de diffusion. Les animaux ont été diffusés très vraisemblablement avec les hommes. Et on imagine que cette diffusion des hommes et des animaux s'est faite de génération en génération. À partir d'un village d'origine, ici représenté par un rond jaune, les fils et filles des familles de fermiers vont s'installer sur de nouvelles terres en périphérie du village. Si ce modèle est bon, on peut imaginer, on peut même estimer, la vitesse de diffusion du mouton de génération en génération, et on peut estimer la vitesse de diffusion du mouton aux alentours de 15 à 18 km en moyenne à partir du lieu d'origine. La suite du transfert de ces animaux est à la fois plus confuse et plus intéressante, car à l'approche de la façade atlantique, les deux courants de diffusion, danubien et méditerranéen, interfèrent. Toujours est-il que les produits mêlés de ces deux courants pénètrent les îles britanniques à la fin du 5e millénaire et les traversent lentement jusqu'au nord, où l'élevage est enfin implanté, en dépit de conditions climatiques peu favorables au début du 4e millénaire, conditions climatiques évidemment très différentes de celles de l'Anatolie originelle. Voilà donc pour la diffusion et l'introduction d'animaux domestiques, avec toutes les conséquences qu'on imagine sur l'environnement. Passons maintenant au deuxième volet de ces composantes de l'intervention humaine sur les continents. Le deuxième volet, c'est celui de l'extinction provoquée par l'homme en milieu continental, avec l'exemple de l'aurochs. L'aurochs, représenté ici par le naturaliste Gesner au XVIe siècle, a irrémédiablement disparu de la surface du globe au XVIIe siècle. Pourtant, au début de l'Holocène, l'aurochs était établi dans toutes les zones ouvertes et les forêts claires de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Afrique septentrionale. Au Proche-Orient, puis dans la vallée de l'Indus et peut-être en Afrique, il a été domestiqué et a donné naissance aux bœufs domestiques et aux zébus. Ses descendants domestiques ont été diffusés, comme le mouton et la chèvre dont nous venons de parler, partout dans le monde, et se sont trouvés en concurrence directe avec les aurochs locaux, pour les herbages en particulier. Comment cette concurrence entre bovins domestiques introduits et aurochs autochtones s'est-elle exprimée ? On a quelques bribes d'informations sur cette question concernant le néolithique, en particulier à travers les isotopes stables dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'isotope stable du carbone contenu dans le collagène des os fossiles néolithiques, le carbone 13, a été dosé sur deux sites du bassin parisien, à Louviers et à Paris-Bercy, et il permet de comprendre comment a tourné cette concurrence entre bœufs domestiques et aurochs dès le 4e millénaire avant notre ère. En effet, ce carbone 13 du collagène est en quantité variable dans le collagène des os selon que l'animal s'est nourri sous un couvert forestier ou bien en zone découverte dans des prairies. Les valeurs peu négatives qui sont donc à droite du schéma témoignent de milieux ouverts tels que les prairies, alors que les valeurs très négatives témoignent de forêts profondes. Hervé Bochereins et Anne Tressé ont montré que dans ces sites du néolithique moyen du bassin parisien, les moutons paissaient sur des prairies ouvertes, sans doute juste autour des villages. Alors que les bovins domestiques étaient menés jusqu'à la lisière des forêts, voire en sous-bois clair. Ce sont les cerfs qui fréquentaient ces mêmes zones qui étaient chassés par les villageois, ainsi que quelques chevreuils qui vivaient en lisière comme en sous-bois. Les aurochs, quant à eux, se cantonnaient en sous-bois, voire en forêt profonde. Or, avant le début du néolithique, l'auroch avait une niche écologique très large, et il fréquentait les prairies comme les lisières et les sous-bois clairs. Il semble donc que la concurrence avec les bovins domestiques, qui bénéficiaient d'une protection par l'homme dont ne jouissaient pas les aurochs, ait poussé ces derniers à ne plus se nourrir qu'en sous-bois, là où les bêtes domestiques et les hommes ne les dérangeaient le moins possible. Ainsi, ici, comme sur les îles, l'implantation de villages paysans et de bêtes d'élevage aurait provoqué de nouvelles conditions de compétition qui induisent des modifications éco-éthologiques telles que ce glissement de niche écologique de l'auroch. Cependant, cette compétition, on le voit, pas plus que la chasse qui était d'ailleurs menée dès le néolithique contre l'auroch, n'a entraîné l'extinction immédiate de cette espèce. Voyons maintenant dans quelles conditions est intervenue effectivement cette extinction. Pour ce qui est de l'Europe continentale, l'auroch est encore attesté dans de nombreuses régions aux périodes gauloises et romaines. César rapporte que la chasse à l'urus, nom latin ou germain de l'auroch, avait beaucoup d'attrait pour les Gaulois. Une diminution sensible des effectifs au haut Moyen-Âge pourrait être à l'origine d'une décision de Clovis d'interdire sa chasse à toute autre personne qu'au roi. Toujours est-il que les seules chasses qui soient mentionnées en France pour la période carolingienne sont limitées au quart nord-est du pays, ce qui suggère une forte rétraction de l'aire de répartition dès les 8e, 9e siècles de notre ère. Au XIIe, XIIIe siècle, les seules chasses royales d'auroch mentionnées, notamment pour Philippe Auguste, du moins pour le domaine occidental de ma carte, se déroulaient dans les Vosges, en Allemagne, et plus à l'est, en Pologne et dans le bassin des Carpates. Là encore, nouvelle régression de l'aire de répartition de l'espèce. Au XVe siècle, l'auroch ne semble plus avoir existé qu'en Pologne, où les souverains successifs, conscients de la régression de l'espèce, commencent à conserver quelques bêtes dans des eaux, comme en 1408, ou cinq aurochs figurés aux eaux de Marienberg en Pologne. Au XVIe siècle, le roi de Pologne Sigismond III a mis en réserve la forêt de Jaktorów, qui est donc au sud-ouest de Varsovie, afin de protéger les derniers aurochs. Quelques années plus tard, il n'en restait plus qu'une cinquantaine. Mais en 1601, après différentes péripéties, notamment des guerres, des révoltes et une probable épidémie transmise par le bétail domestique aux aurochs de cette réserve, il ne restait plus que 4 individus, donc en 1601. La dernière vache d'auroch est morte en 1627 à l'âge de 30 ans dans le zoo de Varsovie. Ainsi, la concurrence avec l'élevage a provoqué une réduction de la niche écologique qui a fragilisé les populations d'auroch. La chasse intensive a entraîné la disparition des plus marginales d'entre elles et les épizooties transmises par les bêtes d'élevage ont achevé le travail. C'est tout un ensemble d'actions, finalement, des sociétés humaines, directes, mais souvent très indirectes, qui, sur plus de 5000 ans, a amené l'extinction de cette espèce. Voyons maintenant s'il n'existe pas sur le continent des phénomènes semblables à ceux qu'on a observés sur les îles, à savoir l'introduction de gibier, à travers l'exemple du lapin. Examinons le cas de cette espèce, tel qu'il est connu, là encore, par les témoignages archéologiques. Le lapin est originaire de la péninsule ibérique, où il s'est différencié par évolution sur place peu avant le début du Quaternaire. Au fil des fluctuations climatiques du Quaternaire et du tardiglaciaire, sa répartition géographique s'est successivement étendue et rétractée autour de la péninsule ibérique. Au néolithique, le lapin occupait l'Espagne, le Portugal et le midi de la France jusqu'en Aquitaine. Au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, le lapin fait son apparition sur les îles Baléares, probablement introduit volontairement pour compenser la pauvreté de ces îles en gibier. Il y proliférera très rapidement et les textes de l'auteur latin Strabon témoignent des dégâts qu'il faisait subir à la végétation et aux cultures sur ces îles au début de notre ère. C'est aussi aux alentours de l'Antiquité classique que le lapin a été introduit sur différentes autres petites îles, telles que celle de Zembra, au large de Carthage. Mais à cette époque, l'espèce n'a pas été implantée ailleurs que sur ces quelques implantations insulaires, si ce n'est peut-être dans quelques parcs à gibier romains. Au IXe siècle, après Jésus-Christ, quelques rares ossements archéologiques attestent que le lapin était présent au moins de manière ponctuelle à hauteur de la Loire. Au XIe, XIIe siècle, le lapin apparaît dans les assemblages d'ossements archéologiques en Italie du Nord, en Angleterre, en Irlande, en Hollande et en Allemagne du Nord. La diffusion s'étend à l'Europe. Au XIVe, XVe siècle, le lapin gagne la totalité des îles britanniques, l'Italie du Sud, la Sicile, la Sardaigne, ainsi que l'Europe centrale. On le voit même apparaître au XVe siècle sur les îles Canaries. L'aire de répartition de l'espèce n'augmentera plus guère ensuite, si ce n'est en Europe centrale, puis avec la diffusion au XIXe, XXe siècle vers la Corse et ensuite hors de l'Europe, c'est-à-dire vers le Chili, l'Australie et de très nombreuses îles océaniques, Pacifique et Atlantique, et l'océan Indien. Pour quelles raisons cette espèce éminemment méditerranéenne, et qui l'est restée pendant des millénaires durant tout le Pléistocène, s'est-elle brutalement étendue en l'espace de quelques siècles à une grande partie de l'Europe, notamment dans des zones qui lui étaient a priori très peu favorables du point de vue climatique. Les textes latins sont très discrets sur la présence du lapin, mais ceux du Moyen-Âge sont beaucoup plus prolixes. Ils nous apprennent qu'à partir du Xe, XIe siècle, il était de mode dans les milieux seigneuriaux d'acquérir un ou deux couples de lapins et les installer dans une motte de terre aménagée à cet effet, motte qu'on appela garenne. Les lapins très sédentaires proliféraient dans cette motte de terre qu'ils criblaient de leurs terriers. Il suffisait d'aller à la garenne avec un furet et quelques filets pour quérir quelques lapins pour le festin. Même s'il était souvent réalisé par les femmes, cette quête de lapins était assimilée à la chasse, alors que ça ressemble plus à un piégeage. Mais c'était bien une chasse dans l'esprit des seigneurs de l'époque, puisqu'elle était interdite aux manants et toute infraction à cette règle était sévèrement punie. Cependant, bien sûr, quelques lapins, naturellement, ont échappé à ces garennes et sont allés fonder des populations sauvages hors des lieux réservés à leur chasse. Les textes indiquent qu'au XIIIe siècle, des lois sont promulguées un peu partout en France qui obligent les propriétaires de garennes à les enclore, afin d'éviter que les lapins qui s'en échappaient ne perpétuent des dégâts sur les cultures. Ces populations de lapins échappées au contrôle de l'homme sont à l'origine de nos actuels lapins de garennes. Au XIIIe siècle encore, on procède même à des aménagements de garennes avec des terriers artificiels, véritables tunnels de pierre plate qu'on nomme clapiers. Ces garennes hautement sophistiquées, qui sont la règle au XVe, XVIe siècle, donnent une autre tournure à cette appropriation. On s'éloigne de plus en plus de la chasse et même du piégeage pour toucher à l'élevage. N'est-on pas là en présence d'un processus de domestication? Ne pourrait-on pas se servir de ce modèle pour mieux comprendre ce qui s'est passé au Proche-Orient et qui, comme pour le lapin, a duré plus d'un millénaire pour le mouton, la chèvre ou le cochon? Du point de vue de la biodiversité, on pourrait avancer que ce phénomène de transfert du lapin en Europe n'a pu être que bénéfique, puisqu'il a augmenté le nombre de taxons en Europe continentale. Certes, mais on sait aussi les dégâts causés par les lapins sur la végétation et les cultures. Et puis la génétique nous apprend aussi que cette diffusion s'est faite avec une perte considérable de diversité biologique pour le lapin lui-même. Du point de vue génétique, en effet, il existe deux types de lapins, type A et type B. Tous deux présents dans la péninsule ibérique, et ils sont issus d'une fragmentation très ancienne des lapins ibériques en deux populations qui ont évolué séparément, probablement durant une longue période au début du Quaternaire. À l'intérieur de chacun de ces deux types, on compte de très nombreux sous-types, l'ensemble donnant une très grande diversité biologique aux lapins ibériques. L'analyse des ADN des lapins fossiles du Moyen-Âge, ceux qui ont passé la barrière au-delà de la Loire et vers le nord de l'Europe, ainsi que celle des lapins actuels de garennes de ces régions continentales, montrent un très fort appauvrissement. Non seulement il n'existe que des lapins de type B, mais en plus ces lapins de type B ne sont représentés que par deux sous-types de ce type B. Cette situation résulte du fait que seul un petit nombre d'individus ont été utilisés pour fonder les garennes médiévales d'où sont issues les populations sauvages actuelles d'Europe continentale et septentrionale. Cet effet de fondation est à l'origine d'une très forte réduction de la diversité biologique de la plupart des lapins du monde, ceux d'Europe continentale bien sûr, mais aussi ceux du Chili, d'Australie et des îles méditerranéennes qui sont issus directement de ceux qui étaient au nord de la région méditerranéenne en Europe occidentale, ainsi que bien sûr de tous les lapins domestiques du monde qui sont issus de domestication septentrionale. Voilà donc pour un exemple de diffusion d'un animal de chasse qui peut être aussi considéré à terme comme un animal en cours de domestication ou voire domestiqué. Reste un point que je voulais évoquer dans la série des différentes composantes de l'intervention humaine, c'est celui de l'introduction de la diffusion facilitée des rongeurs, en particulier que j'évoquerai avec l'exemple du rat noir. On compte 56 espèces de rats, toutes originaires d'Asie du Sud-Est et toutes résidentes en Asie du Sud-Est. Trois d'entre elles seulement ont adopté un mode de vie commensal, c'est-à-dire se sont attachées à la vie des sociétés humaines et ont ainsi bénéficié des activités humaines, notamment des bateaux, pour envahir le monde. Le rat sur mulot est le dernier en date à avoir conquis le monde en partant d'une position très septentrionale par rapport aux autres rats d'Asie du Sud-Est. Il a traversé toute l'Eurasie entre les 16e et 17e siècles comme une traînée de poudre et se trouve maintenant dispersé sur plusieurs milliers d'îles et de pays dans le monde entier, y compris dans l'océan Pacifique, où il a d'ailleurs supplanté bien d'autres rats commensaux. Le rat océanien, quant à lui, a accompagné la conquête maritime du Pacifique par les océaniens, essentiellement durant le premier millénaire de notre ère. Le plus ancien à s'être lancé dans cette aventure est le rat noir. Originaire d'Inde, il a traversé le Moyen-Orient, on ne sait encore trop comment, ni pourquoi, ni en combien de temps, mais il a sans aucun doute profité des réserves accumulées dans les premiers villages sédentaires du Proche-Orient, aux alentours du 10e millénaire, ces villages sédentaires dont on a parlé tout à l'heure à propos de la domestication. Donc c'est surtout à l'histoire de ce rat noir que nous nous intéresserons, car elle est la mieux connue, notamment en Europe occidentale, où l'espèce a joué un rôle très important dans les grandes épidémies de peste au Moyen-Âge. Voyons donc cette conquête de l'Europe par le rat noir. Les plus anciennes attestations archéologiques de rats noirs en Méditerranée occidentale et pour toute l'Europe datent du 2e siècle avant Jésus-Christ environ, aussi bien en Corse, où l'arrivée de l'espèce a été très bien et très précisément datée, qu'à Pompéi. Pour le premier millénaire de notre ère, les attestations sont assez peu nombreuses, mais elles concernent toute l'Europe occidentale jusque dans le sud de l'Écorce et jusque même en zone assez septentrionale, en Suède. On constate toutefois que toutes ces attestations de la présence du rat noir sont situées sur les côtes, sur les grands fleuves ou sur les voies de circulation du réseau Agrippa, voies de circulation qui ont guidé, durant tout le premier millénaire de notre ère, le commerce européen. Au bas Moyen-Âge, en revanche, le rat noir est attesté pratiquement dans tous les sites archéologiques et partout où on a fait l'effort de rechercher ces petits os dans le sédiment en le tamisant sur des mailles très fines. Il apparaît dans des sites qui ne sont pas sur les grandes voies de circulation cette fois. Le décompte au fil du temps du nombre de contextes archéologiques dans lesquels on a trouvé les différentes catégories de rongeurs est éloquent. Les rongeurs qui fuient les activités humaines, dits anthropophiles, sont de moins en moins fréquents de l'Antiquité au temps moderne. Les rongeurs anthropophiles restent à une fréquence relativement constante, mais vous le voyez, la fréquence du rat augmente durant tout le premier millénaire jusqu'à atteindre un niveau de saturation, pourrait-on dire, au début du second millénaire. Tout se passe comme si le rat avait mis un millénaire avant d'envahir vraiment l'Europe occidentale. Cette latence est peut-être due à la lenteur des communications humaines durant le premier millénaire. Il est plus probable de l'attribuer à une lente adaptation du rat à son nouveau mode de vie commensal. En effet, dans toute l'ère méditerranéenne, le climat est suffisamment clément toute l'année, y compris en hiver, pour que le rat originaire d'Asie du Sud-Est, je vous le rappelle, arrive à vivre sans l'aide de l'homme, en extérieur, disent les biologistes, durant toute l'année, y compris l'hiver. Il y a donc dans toutes ces régions-là des populations de rats qu'on qualifie de sauvages, qui ne dépendent pas des activités humaines. Mais dès que le climat est plus rude l'hiver, le rat ne peut plus subsister de manière autonome toute l'année. Il lui a donc fallu devenir strictement commensal de l'homme, c'est-à-dire vivre dans les constructions de l'homme, où la chaleur était suffisante pour coloniser les zones plus septentrionales, les zones méditerranéennes. On peut supposer que durant le premier millénaire de notre ère, les populations de rats noirs qui subsistaient hors de l'ère méditerranéenne ne le faisaient que grâce à l'immigration constante de nouveaux individus apportés par le commerce. Peut-être même que certaines d'entre elles disparaissaient complètement durant l'hiver, et puis redémarraient au printemps. Ces populations périphériques présentent néanmoins toutes les caractéristiques biologiques permettant une évolution biologique rapide, petite taille et isolement relatif. Il est très possible que certaines d'entre elles aient évolué vers une meilleure adaptation au commensalisme, et alors il aurait fallu attendre un millénaire pour qu'une ou plusieurs de ces populations périphériques subissent par hasard l'évolution biologique adéquate et nécessaire à la vie commensale. Ce n'est qu'alors que le rat noir aurait effectivement pu envahir le monde. J'ai mis beaucoup de conditionnels parce que c'est un modèle sur lequel nous travaillons actuellement, mais qui n'a pas encore trouvé de confirmation scientifique. Cette évolution en deux temps, en tout cas, a eu de très importantes répercussions sur l'histoire des sociétés, car la peste est une maladie transmise par la puce du rat et nécessite donc la présence de cette espèce pour se développer en épidémie. La première vague de peste, dite des pestes justiniennes, au 6e, 8e siècle après Jésus-Christ, n'a pas pu envahir toute l'Europe. Vous en voyez ici la limite d'extension. Elle est restée cantonnée aux zones où le rat constituait des populations en extérieur, c'est-à-dire les zones méditerranéennes, et puis peut-être quelques zones où le trafic commercial était si important que des populations de rats arrivaient à se maintenir toute l'année. Mais la seconde vague de peste, celle du XIVe siècle, qui a débuté en 1348, date noire, s'est répandue à une vitesse folle dans toute l'Europe, puisque les populations commensales de rats étaient partout présentes et abondantes. Voilà donc les exemples que je voulais évoquer aujourd'hui. Ce qui nous est apparu en premier lieu, c'est que les composantes directes ou indirectes de l'action de l'homme que nous avons pu mettre en évidence sur les îles apparaissent également sur le continent. Diffusion d'animaux domestiques hors de l'horaire de répartition, avec le mouton et la chèvre. Extinction de taxons sauvages par le concours de nombreuses causes anthropiques, directes ou indirectes, avec l'exemple de l'auroch. Introduction volontaire d'espèces sauvages ayant des effets négatifs sur l'environnement et n'apportant pas de réelle augmentation de la biodiversité, c'est le cas du lapin. Diffusion facilitée de rongeurs commensaux qui deviennent à long terme très négatifs pour la vie économique, bien sûr, mais aussi pour la santé publique, avec le rat noir. Comme l'avait déjà magistralement démontré Darwin il y a très longtemps, les modèles insulaires sont toujours de grande utilité pour comprendre les phénomènes plus globaux. Au-delà de ces observations techniques, il est apparu que c'est en premier lieu par la modification fondamentale des mentalités qui signe la domestication, que la néolithisation est devenue non seulement un fait majeur de l'histoire de l'homme, mais un fait majeur de l'histoire de l'environnement de la planète tout entière. La brutale prise de conscience d'une hiérarchie verticale entre hommes et animaux a ouvert la voie à l'appropriation. Et cette appropriation ne s'est pas limitée aux animaux d'élevage, mais elle s'est étendue aux animaux sauvages qu'on a déplacés et à tout l'environnement. Ce ne sont donc pas tant les seules domestications qui ont eu un fort impact écologique, mais tout un ensemble de manipulations des plantes et des animaux, dont on pourrait dire, de manière un peu provocante, que les OGM ne sont qu'un avatar récent. En d'autres termes, les vrais malheurs écologiques de la planète ont débuté il y a 8 à 10 000 ans. Je voudrais revenir quand même très rapidement aux questions que je posais initialement, avant de clore et d'écouter vos questions. D'abord, une question préoccupante. Alors, finalement, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on vit actuellement, toute cette dégradation de l'environnement qui inquiète nos sociétés, n'est finalement que la suite logique des événements et ce n'est pas pire maintenant qu'il y a 5000 ans. Eh bien, si, quand même, vous le savez bien, vous connaissez la réponse, heureusement. Il y a évidemment, dans les derniers siècles, une accélération considérable de ces phénomènes, ne serait-ce que pour une raison, c'est que la démographie humaine a entraîné une généralisation de l'impact anthropique dans toutes les régions du monde. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui me paraît important aussi. Vous voyez que là, on se situe beaucoup plus dans le discours savant ou que nous, on qualifie de recherche fondamentale. Comment passer de ce que je viens de vous raconter à une application pour la gestion de notre biodiversité et pour la gestion de notre planète dans le futur? Ça n'apparaît pas très facile. Et pourtant, dans ce que je viens de vous raconter, en l'analysant, en le traversant sous une incidence un peu différente, on pourrait observer des effets sur le long terme. Et c'est ça, je pense, qui importe. C'est ça qui manque peut-être aux gestionnaires de l'environnement et des richesses de la planète, c'est d'avoir le recul suffisant pour hiérarchiser les faits et considérer que telle ou telle action de l'homme, telle ou telle forme d'action de l'homme a un effet important aujourd'hui, visible, qui à la limite va avoir un impact dans les médias, mais qui finalement sur le long terme ne sera pas forcément dramatique, alors qu'en revanche, telle ou telle autre action beaucoup plus insidieuse, beaucoup moins visible, aura des effets beaucoup plus désastreux dans un siècle, deux siècles ou cinq siècles. Je n'ai pas encore la réponse, mais les éléments sur lesquels mes collègues et moi travaillons pourraient peut-être un jour permettre d'aider à améliorer ces conditions de gestion. Voilà, je vous remercie.
Bonsoir monsieur, je vous remercie pour cette conférence. Bonsoir. Qui me semblait intéressante. J'aurais voulu savoir si la pratique des sacrifices d'animaux avait pu être un facteur de domestication.
La pratique des sacrifices d'animaux, alors il faut la situer, d'après votre question, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Oui, parce que si ce sont effectivement des sacrifices d'animaux domestiques ou dans des sociétés qui pratiquent déjà l'élevage, on ne voit pas bien comment elle aurait pu jouer dans le sens de l'apparition de la domestication. Et si j'aborde la question de cette manière et que je dévie un petit peu votre propos, c'est parce qu'on est un peu démunis face à la connaissance des sacrifices animaux dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs anciennes. Il n'est pas du tout évident qu'il y ait eu véritablement de sacrifice. J'avoue que là-dessus, ou alors ça vient de mon ignorance, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'informations. Et donc, je ne saurais pas dire exactement quel rôle ont pu jouer les sacrifices, effectivement, dans la domestication. En revanche, que la chasse ait joué un rôle important, c'est clair, puisque les sociétés de chasseurs qui ont précédé la domestication étaient des sociétés extrêmement évoluées en ce qui concerne leur savoir vis-à-vis des animaux, et que ces sociétés, évidemment, avaient tous les éléments, disposaient de tous les éléments pour gérer des animaux domestiques, ou gérer des animaux sauvages dans une phase de prédomestication.
Bonjour, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais quand on parle à des Européens des reines de Norvège et de Suède, et qu'ils vous disent que les reines de Norvège et de Suède sont des animaux domestiques et donc qu'on ne les chasse pas, vous avez toujours un effet extrêmement important dans la société française et dans les milieux que je fréquente. Donc je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début. Affirmer que les sociétés actuelles sont à l'état paléolithique, je dirais que c'est un problème d'information et de compréhension de la civilisation de l'autre.
Non, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre propos, parce que
Je voulais dire que les animaux domestiques, oui, n'étaient pas compris de la même façon pour différentes civilisations. J'ai eu des jeunes filles au pair norvégiennes qui ne mangeaient pas de lapin parce que le lapin, c'est un pet, c'est-à-dire un animal familier. Donc on ne mange pas de lapin en Norvège.
Tout à fait. Oui.
Les rennes, pour un esprit français normal, ce sont des animaux que l'on chasse. Et quand on parle avec des gens du Nord, non, pas du tout. Les rennes, ce sont des animaux domestiques, comme nos braves vaches qui nous fournissent le lait.
Alors, je vous remercie de ces évocations qui m'amènent effectivement à préciser deux points. Le premier, c'est qu'évidemment, les animaux, en particulier les mammifères, puisque c'est d'eux dont on parle surtout, hein, les mammifères ont tous une très forte charge symbolique dans toutes les sociétés. Et il est bien évident qu'à partir de là, on va domestiquer, s'approprier ou rejeter telle ou telle espèce en fonction des projections mentales de la société à laquelle on appartient. Et ça, c'est vrai aussi bien, vous le dites, pour des sociétés actuelles, pour nos sociétés, pour nos comportements, avec la diversité, ne serait-ce que la diversité européenne que vous évoquez, mais c'est vrai aussi à travers l'épaisseur du temps depuis fort longtemps. Le deuxième point qui me paraît très, très important, c'est la hiérarchie qu'on pourrait être tenté d'établir entre des sociétés qui chassent et des sociétés qui élèvent. Alors, à ce niveau-là, c'est bien clair, la préhistoire nous l'apprend très clairement. Il n'y a pas un système meilleur ou plus évolué que l'autre. La simple preuve, c'est que le néolithique est présent dans tout le centre, tout le cœur de l'Europe, au 5e, 4e millénaire. Mais le long de la mer Baltique, il y a des sociétés mésolithiques qui continuent à chasser, qui sont en contact avec les néolithiques, qui connaissent très bien les systèmes d'élevage, qui échangent des poteries, des bijoux, etc. avec ces sociétés néolithiques, mais qui pour rien au monde n'adoptent ce système économique. Ces sociétés mésolithiques sont extrêmement bien adaptées à leur environnement. Et si elles ont, persisté dans ce fonctionnement économique ou écologique, c'est parce que ce fonctionnement était adapté à leur mode de vie. Il n'y a pas donc une évolution linéaire entre des chasseurs qui seraient devenus, pour certains d'entre eux, les plus intelligents, entre guillemets, des éleveurs. Il y a des systèmes techniques d'exploitation de l'environnement qui, par la chasse ou par l'élevage, ou par une savante combinaison des deux, amènent une société à se trouver en équilibre par rapport à, d'une part, ses ressources environnementales, d'autre part, les besoins qu'elle a à satisfaire.
Comment expliquez-vous, monsieur, les traditions culinaires dans certaines religions qui, par exemple, refusent de manger le porc, par exemple chez les Israélites ou chez les musulmans? Y a-t-il là un exemple de la ségrégation ou de la fuite devant l'animal?
Alors, c'est un vaste sujet. Je pense que d'autres que moi seraient plus habilités à en parler, et je crois qu'on n'aura pas le temps, évidemment, d'en faire tout le tour ce soir, mais vous posez là la question des tabous alimentaires. Ce que je pourrais dire en premier lieu, c'est que toute consommation de viande rouge, c'est-à-dire d'animal à sang rouge, de ce que François Poplin appelle les animaux vrais, toute consommation d'un animal de ce type est un acte sacrificiel dans pratiquement toutes les sociétés, y compris dans la nôtre, où la mise à mort et la transformation de cet animal en un aliment se fait à l'extérieur de la société, entre guillemets, dans des abattoirs extrêmement réglementés sur le plan social. Donc, ce système de tabou n'est qu'une expression d'une consommation fondamentalement sacrificielle de l'animal à sang rouge. Et puisque vous évoquez le problème du porc, il y a une chose qui est certaine, je ne pourrais pas m'aventurer très loin, mais une chose qui est certaine, c'est que la non-consommation du porc dans un grand nombre de régions du monde n'est pas liée à des risques épidémiologiques ou des risques parasitaires qui sont invoqués souvent par les non-croyants de ces régions-là pour continuer à adopter le fonctionnement qui leur permet de se sentir en phase avec la société dans laquelle ils vivent, mais ce rejet de la consommation du porc, ça n'est qu'un tabou. Alors, pourquoi ? Il y a beaucoup d'explications dans la littérature. Il y en a une que je retiendrai quand même, c'est que parmi les animaux domestiques, pour des raisons biologiques, le porc est un animal qui est assez proche de l'homme, tant par sa peau nue, du moins pour les formes récentes, que par son odeur, etc., etc. Et que derrière le tabou du porc, il y a très probablement, au moins dans les sociétés que vous parlez, le tabou de l'anthropophagie.
Je voulais vous demander, j'ai raté le début de la conférence, donc je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas déjà répondu.
C'est pas grave.
Apparemment, l'agriculture et l'élevage sont apparus, semble-t-il, simultanément. Et je me demandais si l'apparition de l'élevage n'était pas due à finalement l'apparition de l'agriculture d'abord, qui aurait impliqué une sédentarisation et donc peut-être une tendance à vouloir élever des animaux qui sont moins accessibles, puisqu'on arrête peut-être de chasser ou qu'on chasse moins si on se sédentarise.
Alors, non, je redis en deux mots, mais effectivement, je l'ai expliqué rapidement au début, mais pas tout. Pas toute la réponse à votre question. La première chose qui est très claire, c'est que la sédentarisation précède de loin, de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, le début de l'élevage et de l'agriculture. Et que, curieusement, ça a été une grande surprise il y a une quinzaine d'années de se rendre compte que les premiers villages sédentaires, construits, étaient des villages de chasseurs et de cueilleurs. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est une grande question, c'est celle de savoir si l'agriculture a vraiment précédé l'élevage. Dans les schémas que je vous ai montrés, c'est le cas. Il y a quelques siècles de différence entre les deux. Mais il y a encore 2 ans, je ne vous aurais pas fait tout à fait le même exposé. Les choses vont très vite en ce moment. Le temps séparant la naissance de l'agriculture et la naissance de l'élevage était beaucoup plus important. Et puis on a un peu reculé la naissance de l'élevage, on a un petit peu avancé la naissance de l'agriculture, et les deux phénomènes se trouvent maintenant assez proches. Il est vrai également qu'ils ont probablement eu lieu dans la même région, du moins initialement, sous réserve de ce qu'on pourra découvrir dans les régions où on n'a jamais fouillé encore, évidemment. Donc, quel est le lien réel? Est-ce que l'agriculture a pu favoriser le début de l'élevage? C'est une question qu'il faut envisager très sérieusement, justement parce que l'agriculture précède de peu le début de l'élevage. Je ne sais pas vous répondre plus que ça.
Je voudrais savoir si, à l'exemple des végétaux, il existerait des animaux dont la domestication a conduit à la fabrication, entre guillemets, d'une espèce totalement nouvelle.
C'est une grande question, parce que ça nous pose d'abord, en premier lieu, la question de l'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce nouvelle ? Si vous regardez la nomenclature scientifique, pour le mouton, on parle de Ovis aries, et pour l'ancêtre mouflon, on parle de Ovis orientalis. Donc, si on regarde les espèces, la nomenclature, on a une nouvelle espèce. Maintenant, les deux sont évidemment interféconds, totalement, presque totalement. Donc, ce n'est pas vraiment une nouvelle espèce. Mais est-ce qu'entre les plantes, on n'a pas non plus une certaine conservation d'interfécondité ? Le problème est difficile. Je pense pas que les manipulations génétiques, entre guillemets, qu'ont pu faire les néolithiques, et puis ceux qui ont suivi, chez les animaux, aient amené des modifications aussi profondes que chez les plantes. Mais ça dépend du point de vue qu'on adopte. Si on regarde la morphologie, il y a quand même, quand vous voyez les chiens, quand même des choses qui sont très, très, très différentes du loup. Est-ce qu'on pourrait pas... Si un paléontologue trouvait des os de basset et des os de loup, il dirait sans aucun problème que ce sont deux espèces différentes. Hein.
Justement, à propos du chien, on a l'impression qu'il y a une diversité fantastique du point de vue du phénotype. Qu'en est-il du point de vue du génotype ?
Mais la diversité du génotype, encore faut-il savoir de quel génotype on parle, mais je répondrai sur le génotype mitochondrial, parce que c'est celui que je connais le mieux. Sur le génotype mitochondrial, il y a une diversité, certes, mais cette diversité ne recoupe pas du tout, bien sûr, la diversité phénotypique. Et elle est relativement large. Relativement large. Non, la diversité génotypique nucléaire, comme souvent pour les animaux domestiques, est relativement limitée, parce qu'il y a quand même, comme je l'ai montré pour le lapin, il y a quand même un effet de fondation toujours assez important. Alors le chien a une moindre réduction de diversité génétique, je pense, parce que justement, il y a plusieurs événements de domestication, probablement beaucoup de retrempage, c'est-à-dire de back-cross avec le loup, mais il y a quand même, malgré tout, je pense, une certaine réduction de la diversité génotypique.
Je voulais savoir éventuellement ce qu'il en était du poulet, qu'on voit largement diffusé en Océanie, un peu partout.
Tout à fait, oui.
Et savoir s'il a accompagné le mammifère, précédé ou...
Il a suivi, il est dans le mouvement. Disons qu'actuellement, on situe sa domestication entre le sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est. On n'a pas d'éléments très très précis et on situe cette domestication, selon les auteurs, entre le 4e et le 2e millénaire avant notre ère. La diffusion du poulet se fait à partir du 2e millénaire assez rapidement, à travers l'Eurasie, et on le voit apparaître en Méditerranée orientale, disons dans le premier millénaire de notre ère, puis dans nos régions aux alentours de l'âge du fer. C'est donc un des animaux domestiques qui a suivi toujours ces mêmes courants, et vous avez raison de le souligner, aussi des courants très importants vers l'Océanie, en passant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et toute la diffusion océanienne.
Est-ce que l'acte de domestication par lui-même peut être considéré comme plutôt masculin ou plutôt féminin? Est-ce qu'on sait ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des études? L'apprivoisement
Alors, il y a sans doute des gens qui vous donneraient des réponses très informées à ce sujet, mais là, je sors un petit peu de mes compétences. Moi, je suis, je suis plutôt un hypothético-déductif et je préfère m'en, m'en tenir autant que possible aux observations qu'on peut faire à partir de témoins matériels. Ce n'est pas la seule voie de recherche, hein, et je respecte tout à fait d'autres voies de recherche qui viennent en complément de celle-ci. Donc, pour répondre à votre question, personnellement, j'ai pas d'idée. Y a probablement des éléments dans la statuaire du Proche-Orient, hein, qui pourraient être invoqués, des associations de certaines espèces avec les représentations féminines. Alors, ça c'est un chapitre très intéressant, effectivement. Je vais répondre un petit peu à côté, mais il y a effectivement cette question d'allaitement qui est très importante. Que ça reste dans ces murs, évidemment. J'avoue que je serais assez tenté par une raison laitière, si on peut dire, pour la domestication. Se procurer de la viande, on n'avait pas trop de problèmes à ces époques-là. On chassait très bien. Se procurer du lait, c'était un peu plus compliqué. Et pour se procurer du lait, à partir du moment où on sait que ça existe, et ça fait sans doute très très longtemps qu'on sait que ça existe, eh bien, il faut s'approprier les animaux. S'approprier les animaux, vous l'avez vu, la photo que je vous ai présentée, qui est d'un de mes collègues, Erickson, cette photo montre très clairement le lien du lait entre la femme et l'animal apprivoisé dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il y a quelque chose au travers du lait qui se fait entre l'homme et l'animal, et il n'est pas du tout impossible que le lait soit une des raisons importantes qui ait poussé les gens, ici et là dans le monde, à s'approprier des animaux, puis à les domestiquer à d'autres fins ensuite. Donc peut-être que la femme a eu un rôle très important là-dedans.
Dans les premiers soins, dans les soins apportés aux jeunes nourrissons, enfin aux jeunes, aux bébés des différentes espèces, en l'occurrence, parce que ça voudrait dire que, en l'occurrence, la domestication animale, ça fait un transfert de pouvoir, puisque la chasse est plutôt virile, alors que la domestication serait éventuellement plus féminine.
Oui, je ne suis pas sûr. Ça dépend peut-être de quelle domestication. Vous savez, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose entre les moutons et puis les aurochs. La symbolique peut varier. Et elle peut aussi varier, c'est ce dont on est en train de se rendre compte, elle peut aussi varier beaucoup d'une période à l'autre. N'oubliez pas qu'on est là à travailler sur des millénaires, hein. C'est-à-dire un millénaire, c'est ce qui nous sépare de Charlemagne quand même. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps et les symboliques ont pu varier. Et on travaille aussi sur des grandes distances avec des groupes humains qui ne sont pas reliés entre eux par des éléments de communication très forts. Ce qui veut dire que ce qu'on va dire pour un village, une micro-région, je pense au Proche-Orient, ne sera pas forcément valable pour la micro-région juste à côté. Donc on a un peu tendance actuellement en archéologie à raisonner avec des grands schémas parce qu'on n'a pas trop d'éléments pour aller plus loin, mais il ne faut jamais perdre de vue les modèles ethnographiques qui nous indiquent que dans ces sociétés actuellement, on a une juxtaposition, une mosaïque de systèmes sociaux et de représentations mentales qui, évidemment, ont des liens entre elles à l'intérieur d'une région, mais qui peuvent être assez différentes d'un endroit à l'autre. Alors là, on aimerait bien toucher à tout ça, c'est vrai, on aimerait bien à travers l'archéologie. Je pense qu'on y arrivera, mais il faudra beaucoup de temps.
Une question à propos du cheval. Oui. Le cheval a été domestiqué très récemment, j'imagine, enfin, relativement récemment par rapport à d'autres espèces, et il a toujours eu un rôle symbolique très important au Paléolithique. Et d'autre part, il a eu aussi un rôle alimentaire, j'imagine, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et il y en avait un peu partout. Or, la domestication du cheval, j'imagine que la domestication du cheval a eu lieu dans les zones dont vous parliez, de l'Asie centrale, de basse-vallée, des fleuves russes, là, dans ces coins-là, et puis que ça s'est répandu à une très grande vitesse. Alors,
oui.
On n'a pas parlé de ça. Et je suis assez curieux de savoir l'état de la question, si vous voulez, sur la domestication et la diffusion.
D'accord. Alors, l'état de la question, il n'est pas très très clair parce que très récemment, un certain nombre d'éléments ont été remis en cause concernant la domestication du cheval. Mais je pense que tout le monde s'accorde pour l'instant à dire qu'elle a eu lieu effectivement dans ce qu'on appelle les steppes de l'Asie, plutôt occidentale que centrale. Mais c'est sur la date qu'on a plus de discussions. Pas si récente que ça quand même, selon certains, c'est-à-dire 4e millénaire avant Jésus-Christ. Pas si ancienne pour d'autres. Deuxième millénaire, j'avoue que les arguments récents là font pencher plutôt pour la deuxième solution. La diffusion peut-être pas aussi rapide que ça, parce que cette domestication correspond à des fonctionnements de société assez particuliers, de sociétés qui sont, alors cette fois, beaucoup plus mobiles, pour pas dire nomades. Donc ce sont des conditions de domestication très différentes de celles que j'ai présentées là. Et de ce fait, l'utilisation du cheval semble être restée assez longtemps inféodée à ces sociétés. Et ça n'est qu'avec, du moins pour le domaine occidental que je connais le mieux, ce n'est qu'avec l'âge du bronze que ces chevaux domestiques font leur apparition en Europe occidentale. Et évidemment, entraînent des modifications très importantes. Mais au début, ce sont d'abord des animaux à viande qui sont consommés pour la viande. Seulement après que la monte prend cette valeur de prestige et que le cheval, dans nos sociétés occidentales, acquiert un statut très important.
Bien, on va en rester là. Jean-Denis Vigne, merci.
Merci.